Les cours du Collège de France, Sandra Lavorel, chaire biodiversité et écosystème.
Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre comment les traits fonctionnels des organismes permettent de relier les réponses d'écosystèmes aux changements environnementaux et les effets sur leur fonctionnement. Les recherches qui concernent cette question, en fait, étaient stimulées par des questions que se sont posées les climatologues à la fin des années 80, début des années 90, sur le fonctionnement des cycles biogéochimiques globaux, en particulier la régulation du cycle du carbone, se rendant compte que pour pouvoir comprendre, quantifier le cycle du carbone à l'échelle planétaire et ses modifications par le changement climatique, il était nécessaire de prendre en compte les modifications des surfaces terrestres et en particulier celles de la végétation. En fait, cela posait un problème. La végétation, ce n'est pas une fine couche verte posée sur une surface terrestre. C'est toute une diversité d'espèces, des écosystèmes très complexes avec leur fonctionnement. Et la capacité à coupler la dynamique de la végétation à celle du climat via le cycle du carbone, mais aussi celui de l'eau et de l'azote, a été posée comme un graal de la recherche, faisant appel aux compétences non plus seulement des climatologues, mais aussi des écologues. Un grand mouvement de recherche s'est donc mis en marche, cherchant à, d'une part, modéliser les changements de la végétation à l'échelle globale aux facteurs du changement climatique selon les différentes localisations de la végétation, produisant au départ des modèles qui étaient relativement simples. Vous voyez ici que seul un petit nombre de facteurs étaient pris en compte, le climat, la topographie et les sols, pour expliquer la distribution de seulement 6 groupes de plantes à l'échelle terrestre, constituant un nombre simplifié de biomes. Donc les couleurs sur cette carte. Néanmoins, ceci était déjà une grande victoire d'être capable de rendre compte de façon réaliste de la distribution de végétation à l'échelle globale selon des facteurs macroécologiques, le climat, la topographie et les sols. C'est ici qu'intervenir les écophysiologistes capables de comprendre à l'échelle d'une plante ou d'un couvert végétal relativement simple les effets de son fonctionnement physiologique fin sur différents processus comme l'évapotranspiration, la photosynthèse, la respiration des plantes et des sols pour pouvoir quantifier la production primaire de l'écosystème, donc entre les parties végétales, mais aussi les pertes au niveau du sol. Ces écophysiologistes comme Ian Woodward, pionnier dans ce domaine, connaissaient en fait déjà un certain nombre de paramètres au niveau du fonctionnement de la plante et en particulier au niveau de la feuille qui contrôlent ces échanges donc de carbone, d'azote et d'eau au niveau des plantes et qui vont intervenir pour déterminer les réponses des végétations à l'échelle globale et leurs effets sur le fonctionnement des écosystèmes. La collaboration entre des modélisateurs du climat, comme Richard Betts à gauche et Ian Woodward, l'écophysiologiste à droite, permet de produire ce qu'on a appelé les premiers modèles globaux de dynamique de la végétation, couplant la dynamique de la végétation et les processus biogéochimiques, donc à des échelles très vastes, le globe ici. Ces premiers modèles permettaient déjà de mettre en évidence, par exemple, les impacts de la densité de la végétation en termes d'indice foliaire sur la température à l'échelle du globe, montrant, sur cette carte ici, des effets particulièrement prononcés des ceintures équatoriales de végétation sur le cycle global du carbone. Intervenir ensuite des écologues, spécialistes de la biodiversité, mais aussi écophysiologistes comme Terry Chapin sur cette photo ici, proposant que la prise en compte des traits fonctionnels végétaux et des traits fonctionnels des organismes en général était la clé pour pouvoir coupler les réponses des écosystèmes à différents facteurs de changement globaux et les impacts sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc ceci, c'est le début de l'aventure que je vais vous conter aujourd'hui, cherchant à mettre en évidence comment les caractéristiques fonctionnelles des organismes, donc ici les plantes, les caractéristiques qui vont être mesurables sur un individu en termes de ses fonctions, vont pouvoir expliquer différentes fonctions, par exemple de réponse à des facteurs de l'environnement à travers l'interception lumineuse par la hauteur des plantes, les effets sur les recyclages du carbone et des minéraux à travers les traits des feuilles et des racines, en pouvant établir des relations répétables entre les caractéristiques qui vont être facilement mesurées sur un individu ici de plante et différentes fonctions. Les recherches sur les traits fonctionnels ont pu identifier assez rapidement puis consolider les connaissances sur ce que je vais appeler les traits végétaux essentiels. Le premier d'entre eux, la taille, ici illustré pour les plantes, mais valide à l'échelle de tous les organismes, comme indicateur de l'efficience du métabolisme d'un organisme. Donc ce graphique montre une relation log-linéaire entre la croissance annuelle d'une plante, sa production de végétation, de biomasse, et sa masse, donc à l'échelle globale. Sachant que chez les plantes, la taille est très bien liée à la hauteur végétative, un trait très facilement mesurable, on a ici un indicateur de la production de biomasse à partir de la hauteur d'une plante. La seconde catégorie de traits considérée comme essentielle pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes et les réponses des organismes aux variations de l'environnement concerne l'économie des ressources par les feuilles. Si l'on s'intéresse à la vitesse de photosynthèse d'une feuille, celle-ci apparaît liée en fait aux caractéristiques structurales de cette feuille entre sa surface de captage de la lumière et ce qu'on va trouver à l'intérieur de la feuille qui va permettre son métabolisme en termes de métabolites, en particulier dans les chloroplastes et de fibres, permettant de distinguer un gradient d'efficience de l'activité photosynthétique entre des espèces qui vont avoir tendance à avoir des feuilles petites et plutôt épaisses, donc ce qu'on va appeler une masse surfacique élevée, le rapport de la masse sur la surface, et des espèces ayant des feuilles plus grandes et plus fines, donc avec une activité photosynthétique beaucoup plus élevée et plus efficace. Cette activité photosynthétique est aussi liée à un troisième paramètre, la teneur en azote des feuilles. Ce qu'on a appelé ici le spectre d'économie des ressources dans les feuilles, donc mettant en évidence un compromis entre ce que l'on peut allouer à la structure, donc en particulier les fibres, et ce que la plante peut allouer à l'activité métabolique via notamment la teneur en azote. Ce spectre d'économie, il a été démontré comme valide à l'échelle de la plante entière, concernant les caractéristiques des racines aussi, ou du bois, qui impactent l'économie du carbone, des nutriments et de l'eau. Donc on va toujours opposer des plantes qui vont avoir un métabolisme rapide lié à des tissus peu fibreux, riches en nutriments, à des plantes qui vont avoir un métabolisme plus lent avec les caractéristiques inverses. Donc à partir de ces traits généraux qui expliquent le fonctionnement de la plante en tant qu'organisme, en tant qu'individu, on a pu identifier différents types de traits fonctionnels, les premiers étant ceux qui déterminent la réponse des plantes au changement de leur environnement, le climat, mais aussi par exemple la disponibilité en nutriments des sols, sous l'effet des caractéristiques naturelles des sols, mais par exemple aussi de la gestion. Pour cela, Philip Grime, à la fin des années 1970, a proposé que la composition d'une communauté végétale était le résultat d'un filtrage par les différents facteurs de l'environnement, donc le climat, le sol, mais aussi toutes les perturbations qui vont réduire la biomasse, par exemple les incendies ou la consommation par des herbivores sauvages ou domestiques, et qui vont en fait, au fur et à mesure, éliminer les espèces qui n'ont pas des traits leur permettant de survivre selon ces facteurs. Donc les traits qui vont faire office de filtre ici, ce qu'on appelle les traits de réponse, pour lesquels on peut démontrer une relation pas forcément linéaire comme sur cette figure, mais une relation en tout cas, entre une variable environnementale et la valeur de ce trait. Donc après près de 30 ans d'écologie fonctionnelle végétale, donc d'écologie des traits, on connaît, résumé sur cette figure qui est nécessairement très complexe, un grand nombre de traits fonctionnels qui déterminent la réponse des plantes aux variations de leur environnement. Donc ces traits fonctionnels, ils sont au niveau des feuilles, au niveau des tiges, un tronc chez un arbre aussi, au niveau de la plante entière avec sa hauteur, et de façon très importante aussi au niveau racinaire. Plus précisément, si nous revenons au spectre d'économie foliaire, ce spectre d'économie foliaire a été mis en relation de manière répétée, quels que soient les écosystèmes, avec la disponibilité en nutriments et en particulier la fertilité des sols, montrant un gradient entre des espèces qui vont avoir des feuilles relativement fines, épaisses, une forte masse surfacique, une forte teneur en matière sèche et une longue durée de vie. Et à l'opposé de ce gradient, donc sur des sols plus fertiles, des espèces avec des feuilles plus larges, plus fines, avec un métabolisme plus rapide et des teneurs en azote foliaire élevées. De manière générale, on peut établir des spectres de réponse des traits fonctionnels des plantes aux facteurs physico-chimiques de l'environnement, avec une augmentation de la taille, généralement avec des températures plus élevées, jusqu'à un certain seuil, bien entendu, et toute une série de variations des traits des feuilles et des racines à la fertilité du sol. Donc je mentionnais déjà le spectre d'économie racinaire qui concerne la taille des feuilles, l'azote et le phosphore, à l'inverse de la variation des fibres de la matière sèche. Ce spectre se retrouve non seulement chez les feuilles, mais aussi chez les racines. Concernant les perturbations de l'environnement qui vont diminuer la biomasse, qui vont détruire la biomasse de la végétation de façon épisodique, donc je mentionnais par exemple le pasturage et les incendies, mais aussi les chablis en forêt, ceux-ci correspondent à un différent groupe de traits de réponse qui vont contrôler la capacité des plantes à se régénérer et à compléter leur cycle de vie après une perturbation. Donc on va trouver ici un contraste entre des espèces pionnières, donc en forêt par exemple ici les pins, qui sont intolérantes à l'ombre, poussent à la lumière, peuvent se disséminer rapidement pour coloniser les espaces libérés par des graines nombreuses, avec des plantules qui vont pousser vite, mais des durées de vie qui seront plus courtes, un cycle de vie plus rapide. À l'inverse, au fur et à mesure que le temps s'écoule depuis une perturbation, on va trouver des espèces compétitrices, comme ici le chêne chez nous dans nos forêts tempérées, tolérantes à l'ombre, se régénérant par des graines plus grosses et moins nombreuses, avec une croissance lente et un cycle de vie plus lent, donc une durée de vie plus longue. Donc la compréhension de ces traits de réponse aux variations de l'environnement est ce qui va nous permettre d'essayer de passer de variations d'effets de facteurs de l'environnement au changement de fonctionnement de l'écosystème via le changement de composition des communautés. Ici, on va distinguer deux types d'effets des changements de l'environnement sur le fonctionnement d'écosystèmes. Les effets directs, qui sont les effets les plus facilement connus. Par exemple, on sait très bien que la température est un facteur qui va augmenter tous les processus à l'échelle d'un système biologique et en particulier d'un écosystème. Donc, pensez à la température qui va, par exemple, augmenter la vitesse de photosynthèse qui va augmenter aussi la respiration des sols. Et ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui, ce qui sont les effets indirects, donc les processus par lesquels les changements de facteurs de l'environnement affectent le fonctionnement des écosystèmes via les changements de composition des communautés. Pour cela, nous allons mobiliser une nouvelle catégorie de traits, ce qui s'appelle les traits d'effet. donc simplement définies comme les caractéristiques mesurables sur les individus par lesquels les organismes consomment ou transforment des ressources, modifient la structure physique de l'habitat, la chimie de l'environnement et interagissent avec d'autres organismes. Et donc c'est par ces processus qu'ils vont affecter le fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble. Quelques exemples. Chez les plantes, et en particulier chez les plantes prairiales, les mesures réalisées dans différents types d'écosystèmes, à travers en particulier l'Europe, hein, où on a les données les plus fournies, c'est en train de se fournir plus à l'échelle mondiale, montrent qu'on a une forte valeur prédictive d'un certain nombre de traits pour plusieurs fonctions. Les traits du spectre d'économie des ressources affectent directement les fonctions liées à la production primaire, donc la production de biomasse chez les végétaux. Un second groupe de traits, lié plus spécifiquement au spectre d'économie, cette fois sur les feuilles, va affecter tout ce qui concerne les nutriments, et donc en particulier la qualité des fourrages, ou aussi tout ce qui va concerner la disponibilité pour des herbivores de plus petite taille. Et enfin, les traits architecturaux, comme la taille, mais aussi par exemple la profondeur d'enracinement, qui vont être critiques pour la régulation des flux liés à l'eau. Donc la connaissance à la fois des traits de réponse aux variations de l'environnement et des traits d'effet sur l'écosystème est ce qui fonde le raisonnement qui nous a permis de commencer à résoudre ce fameux Graal de l'écologie pour répondre à la quête initiale des climatologues, mais vous le verrez à bien plus. Donc l'idée était que si les traits fonctionnels sont ce qui permet de faire la relation entre facteurs environnement et fonctionnement de l'écosystème, nous allons pouvoir ouvrir cette boîte complexe et avoir non seulement une compréhension, mais aussi une capacité prédictive. Avec mon collègue montpelliérain Éric Garnier, nous avons en fait pu montrer comment, lorsque des traits sont à la fois des traits fonctionnels chez les plantes, sont à la fois des traits de réponse, donc des traits qui vont déterminer d'une part la réponse à des variations de l'environnement, mais aussi des traits d'effet, par exemple sur les recyclages du carbone, de l'azote ou de l'eau, on a en fait ainsi une façon de relier les effets des changements environnementaux au fonctionnement de l'écosystème. Je vais passer un peu de temps à vous expliquer les méthodes par lesquelles nous avons pu, à l'échelle de la communauté de recherche nombreuse sur ce sujet à travers le globe, récolter les données qui permettent aujourd'hui de conclure à la validité de ce modèle. La première façon d'aborder les écosystèmes, ce sont toujours les observations, donc dans la nature, sans les modifier, dans toute la complexité des écosystèmes et de leur biodiversité. En particulier, puisqu'on s'intéresse ici aux variations de facteurs de l'environnement, beaucoup d'études vont se pencher sur ce qu'on appelle des gradients écologiques ou des gradients environnementaux, où à travers l'espace, on va pouvoir observer la variation continue de certains paramètres, par exemple l'humidité du sol, la disponibilité en nutriments, mais aussi par exemple des paramètres comme la température. Et ces gradients donc, de facteurs de l'environnement, on va les mettre en relation avec des gradients de composition des communautés végétales ici et de fonctionnement des écosystèmes. Néanmoins, en conditions naturelles, on est toujours dans des systèmes qui sont trop complexes et on ne contrôle pas tout. Et donc, ceci demande de pouvoir compléter ces observations dans la nature à des dispositifs expérimentaux de degrés de contrôle plus ou moins grands. Donc, allant de conditions très contrôlées, par exemple en écotron ici, où on va pouvoir contrôler les mélanges de plantes sur lesquels on va mesurer les traits fonctionnels et le fonctionnement de l'écosystème, avec des conditions parfaitement contrôlées et la capacité d'en suivre tous les paramètres. Le même type d'expérimentation, mais cette fois au champ, et jusqu'à des expérimentations dans la nature, où on va pouvoir modifier parfois la composition des écosystèmes, parfois non, comme à droite, on est sur un écosystème intact, et surtout modifier des paramètres de l'environnement, par exemple les paramètres climatiques, ici l'enneigement ou la température et les précipitations. Donc on aura toujours cette tension entre contrôle des conditions environnementales qui permettent de conclure sur les causalités de manière univoque et représentativité des systèmes in natura. Et donc l'ensemble des recherches dont je vais vous présenter aujourd'hui les résultats sont en fait la combinaison de travaux qui combinent à la fois tous les types d'observations et tous les types d'expérimentations. Le dernier type d'expérimentation qui a été utilisé dans la bibliographie pour explorer le rôle des traits pour lier réponse des écosystèmes à leur fonctionnement provient d'expérimentations dont on n'était pas forcément la première vocation, des expérimentations mises en place pour comprendre les effets de la diversité quantitative en tant que telle, le nombre d'espèces dans un écosystème, sur leur fonctionnement, donc en conditions au champ, ont été manipulés des nombres d'espèces et aussi des nombres de types d'espèces, les groupes fonctionnels, selon des dispositifs d'assemblage aléatoire. Donc je souligne d'ores et déjà que ces assemblages aléatoires sont des assemblages qui ne répondent pas aux contraintes de l'environnement. Ils sont mis en place comme si toutes les plantes pouvaient coexister ensemble en ce point. Le type de mesures qu'on va ensuite réaliser vont concerner différents paramètres de l'environnement, la température, l'humidité des sols avec différents types de capteurs qu'on peut introduire sous les plantes ou dans les sols, des prélèvements de sol avec de nombreuses analyses chimiques, les traits fonctionnels des plantes selon des méthodes standardisées pour mesurer les différents paramètres, par exemple de leur architecture, les différentes caractéristiques de leurs feuilles, mais aussi leurs mycorhizes, y compris par extraction d'ADN environnemental, et des mesures de processus de l'écosystème, par exemple la production de biomasse, l'interception de la lumière, des processus plus complexes à mesurer, comme les échanges de carbone, dans les canopées, et aussi des mesures de ce qui va advenir de la matière morte avec une quantification de la litière végétale au sol et des expérimentations contrôlées de décomposition de cette litière. Je m'arrête un instant sur les mesures de traits fonctionnels pour souligner que si l'on dispose de méthodes de mesure qui sont aujourd'hui relativement standardisées, et pour certaines relativement rapides, permettant d'accéder à des communautés qui sont diversifiées. Pour obtenir les résultats dont nous avons besoin pour lier les traits fonctionnels de réponse aux traits d'effet, il est important de prendre en compte ce qu'on appelle la variabilité intraspécifique des valeurs de traits des plantes. Sur cette figure, vous voyez une illustration de comment, pour une espèce donnée, donc les cinq espèces qui sont figurées ici, en fait, on peut, sur la ligne du bas, avoir une variation importante de leurs traits, donc ici les traits de leurs feuilles, liées à des variations interindividuelles, mais des variations qui pourront être en particulier contrôlées par les conditions environnementales. On sait par exemple très bien, si vous vous occupez de plantes vous-même, vous savez très bien que des plantes à l'ombre, leurs feuilles vont devenir plus fines. La taille des plantes va aussi varier, aussi en fonction des nutriments du sol, sans changer d'espèce. À des échelles géographiques importantes, la variabilité intraspécifique est toujours moindre que la variabilité interspécifique, ce qui permet de passer par l'échelle de l'espèce elle-même. En revanche, l'importance de cette variabilité, elle dépend des espèces et elle dépend des traits, ce qui fait que l'utilisation de bases de données aujourd'hui disponibles pour les traits fonctionnels est relativement délicate quand on va vouloir les appliquer à des expérimentations, des observations qui vont être sur des écosystèmes à des échelles relativement locales, où il est alors nécessaire donc de bien mesurer cette variabilité intraspécifique. Il existe différentes méthodes pour ce faire, y compris la capacité à aller mesurer directement les traits végétaux, les traits fonctionnels des individus, en s'affranchissant de leur espèce le long de transectes, donc comme figuré ici. Donc si on prend une ligne à travers un écosystème, on va échantillonner toutes les feuilles des individus sur cette ligne. Intéressons-nous maintenant aux mécanismes par lesquels les traits fonctionnels des communautés, donc les traits fonctionnels des plantes à l'échelle de communautés plurispécifiques, vont impacter sur le fonctionnement de l'écosystème. Le premier mécanisme mis en évidence par l'écologue Philip Grime, encore lui, est ce qu'on appelle l'effet de masse, ou de façon relativement logique, si on s'intéresse au fonctionnement d'un écosystème, eh bien, ce sont les espèces les plus abondantes qui vont le déterminer, donc ce qu'on appelle les espèces dominantes, celles dont la masse est la plus importante dans l'écosystème, à comparer d'espèces subordonnées dont les effets seront plus anecdotiques sur le fonctionnement de l'écosystème. Cet effet de masse, c'est comme si l'on regardait en quelque sorte l'écosystème depuis le ciel, ou si on le prenait dans toute sa masse, pour avoir une idée de ses traits fonctionnels, non plus à l'échelle d'espèces individuelles, mais pour l'ensemble de la communauté. Donc ici, Éric Garnier a proposé une façon particulièrement intéressante d'établir l'effet d'une communauté végétale sur le fonctionnement de l'écosystème en agrégeant l'ensemble des valeurs des traits fonctionnels des espèces qui le composent par sa moyenne pondérée par les abondances relatives des espèces. Donc si je schématise ici, vous avez en haut et en bas deux écosystèmes contrastés. Un premier écosystème dominé par les feuilles bleues, donc qui aurait par exemple des feuilles relativement épaisses avec un métabolisme relativement lent et peu de teneur en azote, à comparer des feuilles jaunes avec les propriétés inverses. Donc s'il s'intéresse à l'écosystème dans son ensemble, lorsque les feuilles bleues seront les plus nombreuses, eh bien elles vont dominer le fonctionnement de l'écosystème, alors qu'à l'inverse, lorsque les feuilles jaunes sont dominantes, leur masse est plus importante, eh bien, on aura des caractéristiques correspondant à ce fonctionnement plus rapide de ces feuilles jaunes. La suite des recherches a cherché à décortiquer non plus seulement l'effet de cet effet de masse, donc de la moyenne à l'échelle de l'écosystème, mais aussi l'effet de toute la variation des traits, des valeurs de traits dans l'écosystème, donc de leur dispersion, qui est important pour comprendre les complémentarités qu'on va avoir entre espèces dans leur capacité à capter des ressources comme la lumière. Vous voyez à droite, par exemple, comment les plantes les plus grandes vont pouvoir intercepter la lumière mieux que celles qui sont plus petites. Accéder aux ressources par des systèmes racinaires plus ou moins profonds et aussi éventuellement avec l'aide de mycorhizes. Donc toutes ces complémentarités, on le sait à partir des recherches sur les effets de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes, elles vont pouvoir contribuer à un fonctionnement plus efficace de l'écosystème en présence d'une diversité d'espèces avec une diversité de traits fonctionnels. Dernier type d'effet qu'on va vouloir mettre en évidence, ce sont des valeurs de taxa particuliers qui vont, pour des raisons par exemple de présence de composés biochimiques particuliers, influencer le fonctionnement de l'écosystème bien au-delà de leur masse. Les recherches sur les effets de la diversité des traits fonctionnels sur le fonctionnement d'écosystèmes se sont attachés à quantifier la diversité fonctionnelle non seulement à partir de cette moyenne et cette variance, mais aussi à partir d'autres propriétés de la distribution des traits dans les communautés, notamment à savoir si certaines valeurs sont surreprésentées, donc par des distributions qui vont être asymétriques, qui vont refléter en particulier le fait que des espèces avec certains traits vont avoir tendance à être très dominantes et exclure les autres valeurs de traits, ainsi que de savoir si on a des distributions qui sont extrêmement restreintes des distributions avec des valeurs qui sont concentrées sur certaines espèces dominantes et ensuite une large gamme de valeurs sur des espèces moins dominantes, ou plus équitable, plus plate, donc qui indiquerait la coexistence entre des espèces avec de nombreux traits fonctionnels diversifiés. Donc après ces différents préalables méthodologiques, je vais entrer dans ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme preuve des relations entre réponse des plantes et des communautés qu'elles constituent au changement de l'environnement et effet sur le fonctionnement des écosystèmes, en ce qui concerne en particulier le recyclage du carbone et des nutriments, qui sont les fonctions qui ont été largement les plus étudiées jusqu'ici. Donc, si on s'intéresse à la première fonction, la plus basique, la production primaire, bien entendu, les effets qui sont les plus évidents, les plus connus initialement, concernent la variation de facteurs abiotiques, donc en particulier les facteurs climatiques. Donc, j'ai pris ici les données issues d'un suivi pendant 25 ans de prairies dans le Larzac, ayant mesuré donc la production à trois saisons, donc printemps, été et automne, et les mettant en relation premièrement avec les facteurs environnementaux et ensuite avec les traits fonctionnels des plantes qui les constituaient. Donc, sans surprise ici, la température et l'humidité des sols sont les facteurs déterminants de la production selon les saisons, avec au printemps une limitation par les températures basses, mais aussi par l'humidité des sols, et en été comme en automne, une limitation cette fois par la chaleur et aussi par l'humidité du sol, donc quand il fait sec. Intéressons-nous maintenant aux effets non plus directs de l'environnement, mais aux effets indirects via les changements des plantes qui vont être présentes dans l'écosystème. Ici, plusieurs mécanismes vont être en cause. Le premier, c'est la taille des plantes, puisque à l'échelle des espèces, on observe une relation répétable à l'ensemble du globe entre la production primaire des végétaux et la masse totale non seulement de ces plantes, mais aussi de leurs feuilles. Donc la masse foliaire, la masse de la plante, est indicatrice de la capacité d'une plante à produire de la biomasse sur une année. Nous intéressons maintenant aux feuilles. Les recherches issues de l'écophysiologie ont permis de mettre en relation la production de biomasse d'une communauté, donc sur une année, et son efficience, donc ce qu'on appelle le taux spécifique d'accumulation de la biomasse, qui est la production de biomasse par journée de croissance, au taux de croissance relative des plantes individuelles. Donc ce taux de croissance relative, il est très utilisé en écophysiologie en particulier, c'est le rapport entre le gain de masse et la durée de temps. Et donc si l'on agrège ce taux de croissance relative des plantes entre différentes espèces dans une communauté, donc pour en obtenir une moyenne pondérée par l'abondance des espèces, on découvre qu'il y a ici une relation linéaire entre cette mesure agrégée et la production spécifique de biomasse à l'échelle d'une année. Donc, l'inconvénient, c'est que ce taux de croissance relative, il est mesuré en conditions standardisées, donc il est difficile à mesurer, coûteux à mesurer, et on aimerait pouvoir relier ça à des traits fonctionnels, en particulier des feuilles. C'est ce qu'a réussi à faire Éric Garnier et son équipe pour une série d'écosystèmes, donc ici dans les garrigues de la région de Montpellier, montrant que ce taux spécifique d'accumulation de la biomasse, il était bien lié non seulement donc au taux de croissance relatif des espèces pris à l'échelle de la communauté, mais aussi aux mesures agrégées à l'échelle de la communauté de différents traits des feuilles. Donc, une production de biomasse d'autant plus efficiente que les couverts sont riches en azote, et d'autant moins efficiente que l'on a des feuilles qui vont avoir des masses surfaciques plus élevées, donc en particulier des feuilles plus petites et ou plus épaisses, qui correspondent aussi à une teneur en matière sèche plus élevée. Donc revenons à nos prairies du Larzac et leur suivi pendant 25 ans. Le même type d'analyse a montré que l'on pouvait en effet lier la pousse estivale à des plantes, à des stratégies dites plus exploitatrices, donc avec ces feuilles qui vont fonctionner plus rapidement, plus fines, plus riches en azote, avec des durées de vie plus faibles, alors que la repousse automnale était, elle, liée à la diversité des types de feuilles. La pousse printanière, elle était liée à la structure de hauteur des différentes espèces dans les couverts, la pousse printanière étant liée à des couverts plus homogènes, alors que la repousse automnale bénéficiait de la présence de petites espèces. Donc on voit ici que ce sont différents traits fonctionnels qui vont intervenir à différentes phases de croissance au cours de la saison, ainsi que différentes dimensions, que ce soit la valeur moyenne, par exemple pour la stratégie exploitatrice, c'est à la moyenne de la communauté, ou la diversité donc des types de feuilles, par exemple, donc cette divergence fonctionnelle. Donc depuis, on a accumulé un certain nombre de données concernant la production de biomasse. Sachez que c'est la fonction la plus mesurée. C'est une fonction qui est importante puisque c'est l'entrée de matière dans le fonctionnement des écosystèmes. C'est aussi celle qui va intéresser directement, par exemple, la production agricole. Et à partir de ces données, on peut commencer à entrevoir l'importance relative de la valeur moyenne des traits dans les communautés et de leur diversité, donc cette variance à l'échelle des communautés. On dispose bien moins de données, néanmoins, sur ce qui va concerner la diversité des valeurs de traits dans les communautés. Néanmoins, si l'on peut établir, comme je l'ai déjà montré, une relation positive entre la production annuelle de biomasse et le caractère plus exploitatif de leur plus exploitateur de leurs feuilles et des plantes en général, les effets de la variance peuvent être négatifs lorsqu'on va avoir en fait compétition entre différentes plantes, comme illustré ici pour une étude réalisée sur des prairies alpines du Colorado. Néanmoins, ce que tend à montrer la bibliographie aujourd'hui disponible, c'est que si l'on a des effets directs bien avérés, donc à gauche ici, des caractéristiques moyennes des feuilles médiant les effets de la disponibilité en ressources vers la production primaire, les effets de la diversité fonctionnelle sont, eux, souvent plus indirects, moindres, et ils vont intervenir comme régulation de ces premiers effets de la moyenne. Donc, retenons ici que ce sont principalement les traits moyens découverts, donc cette valeur agrégée, qui vont déterminer la production primaire avec des effets secondaires de la diversité fonctionnelle. Cette question, elle a été testée en particulier aussi dans les expérimentations qui cherchaient vraiment à explorer les effets de la diversité, donc ici des plantes, sur le fonctionnement des écosystèmes, comme l'expérimentation à long terme réalisée à Iéna en Allemagne, montrant qu'on avait en effet un effet prépondérant par les espèces les plus dominantes, donc dans cette expérimentation, les graminées et en particulier les grandes espèces pérennes, avec des stratégies efficaces d'exploitation de l'azote et aussi d'accès à l'eau par leurs racines profondes. Des effets de divergence et diversité fonctionnelle par complémentarité avec les légumineuses, qui passe par l'augmentation de la diversité des teneurs en azote foliaire dans les communautés, et des effets d'identité, c'est-à-dire des effets qui ne sont expliqués ni par la valeur moyenne, ni par la divergence des valeurs, mais encore en plus au niveau de l'explication statistique, de la présence de certaines espèces, en particulier des espèces de grande taille ou une graminée dominante dans cette expérimentation. Ce qu'ont aussi montré les analyses, c'est que ces effets passent par l'augmentation du carbone du sol grâce au fonctionnement donc, de ces plantes qui vont rapidement accéder au carbone par une photosynthèse rapide, le métaboliser rapidement et le faire passer rapidement dans le sol. Intéressons-nous maintenant à une seconde fonction, la fonction dont on a le plus d'études après la production primaire, qui concerne la décomposition des litières. Donc ça, c'est un processus qui est essentiel puisque c'est ce processus qui va permettre de rendre au sol le carbone et les nutriments fixés par les plantes. Donc la décomposition des litières, elle passe par donc un premier cycle de décomposabilité des plantes selon leur composition, puis toutes les activités des différents micro-organismes et macro-méso-organismes des sols. De manière générale, on sait que la décomposition du matériel végétal va être d'autant plus facile qu'ils seront riches en particulier en azote, dont vont profiter les décomposeurs, et d'autant plus difficile et demandant des décomposeurs spécialisés qu'ils seront riches en fibres et en composés secondaires, donc des molécules plus complexes. Donc les relations entre les traits fonctionnels des plantes et en particulier des feuilles ont d'abord été étudiées à l'échelle de l'espèce. Ici, une expérimentation réalisée à nouveau par l'équipe Montpellier-Rennes dans 17 espèces des communautés donc, de ces systèmes, mesurant en conditions contrôlées la vitesse de décomposition de leur litière en fonction de tout un ensemble de paramètres de traits fonctionnels de leurs feuilles et de leur litière. Ce qu'a montré cette étude, c'est que la vitesse de décomposition est d'autant plus grande qu'on va avoir des feuilles de type exploitateur, avec donc une teneur en matière sèche réduite, et aussi des feuilles moins coriaces. À l'inverse, donc une décomposition plus lente pour des espèces avec une forte teneur en matière sèche, une forte résistance mécanique liée à leur teneur en fibres. Et ce qui était particulièrement important dans cette étude fondatrice, qui a permis ensuite de mesurer la décomposabilité à l'échelle de communautés entières, c'était de montrer que ces propriétés de feuilles vivantes expliquaient la décomposition de litière aussi bien que celle de la composition des litières elles-mêmes en termes de teneur en fibres ou par exemple d'hémicellulose. Donc ça, c'est à l'échelle des espèces individuelles. Et ce qui nous intéresse pour étudier les effets changements environnementaux sur les écosystèmes via les changements des communautés, c'est de passer à l'échelle de la communauté dans son ensemble. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça nous amène à nous intéresser à des communautés qui vont être diversifiées. Ici, avec une première étude que nous avons pu réaliser sur 11 sites dispersés depuis la Norvège jusqu'en Israël et avec des types de gestion des écosystèmes herbacés très variés. Donc, dans chacun de ces sites, on observait différentes intensités de gestion dont on a pu montrer qu'il y avait une relation avec un certain nombre de traits fonctionnels des couverts végétaux, et en particulier donc la teneur en matière sèche moyenne des feuilles de ces couverts, de ces prairies, donc qui augmentait avec une intensité quand on diminue l'intensité de la gestion. Donc plus on a une gestion intensive, moins on a des feuilles riches avec une teneur en matière sèche élevée. Et moins la gestion est intensive, plus la teneur en matière sèche des feuilles est élevée. Alors pourquoi s'intéresser à cette teneur en matière sèche des feuilles? Vous avez déjà vu qu'à l'échelle des espèces, c'était un trait important pour expliquer leur décomposabilité. Et lorsque nous avons pu mesurer la décomposition de litière, cette fois des communautés entières, nous avions montré qu'elle était en effet très bien liée à travers les sites et quel que soit le site, donc depuis la Norvège jusqu'à Israël, à la teneur en matière sèche moyenne de leur couvert, qui était elle-même liée au rapport entre lignine, donc composé peu décomposable, et azote, composé fort décomposable, et apprécié des organismes du sol. Donc nous avons ici la première démonstration de la capacité à mettre en relation les réponses, un trait qui va déterminer la réponse des communautés végétales à ici un gradient de gestion et aussi un gradient climatique, et ses effets sur le fonctionnement de l'écosystème, ici la décomposabilité des litières. Le même type d'études ont été appliquées par la suite par différentes expérimentations mises en place à travers le monde, et en particulier une grande expérimentation qui a maintenant plus de 20 ans aux Pays-Bas, à la décomposition des ligneux, et donc plus, non plus seulement des feuilles, hein, qui dont la décomposition est largement la plus étudiée à l'échelle de la bibliographie mondiale, mais aussi de leurs autres composantes, les branches et les rameaux, permettant de mettre en évidence un effet de ce spectre d'économie des ressources, donc la tension entre des tissus riches en nutriments mais facilement décomposables et des tissus plus pauvres en nutriments, plus riches en fibres, difficiles à décomposer. Donc mise en évidence précédemment à l'échelle des feuilles, mais qui s'applique aussi pour les autres parties donc d'un arbre ou d'un buisson ici, donc les rameaux et les branches. Néanmoins, la nuance à apporter quand on va s'intéresser à la décomposition des ligneux, c'est que donc selon les espèces, l'architecture va être fort variable, bien entendu. Donc selon les espèces, on va avoir des masses différentes et des distributions de masses différentes entre ces différents organes, hein, ces différentes composantes de l'architecture. Et ce qu'il est apparu essentiel, c'est de prendre en compte en fait la distribution de la biomasse à l'échelle d'une espèce, mais aussi entre espèces, entre ces différents organes, pour pouvoir comprendre la décomposition des ligneux. J'illustre cela maintenant pour une étude que nous avons réalisée dans des écosystèmes de montagne, nous intéressant à leur colonisation par des ligneux bas, des buissons, dans une étude ici comparative entre la France et l'Autriche. Donc, dans ces écosystèmes, nous cherchions à savoir comment la colonisation par différentes espèces de ligneux bas, dans différents types de prairies, avec des végétations avec des différents traits fonctionnels, allaient impacter le fonctionnement de leur sol via les modifications de leur matière organique. Pour cela, nous avons donc mesuré les traits des différentes espèces du couvert herbacé et des buissons, à la fois au niveau des feuilles, mais aussi donc de leur partie ligneuse pour ce qui concerne les buissons, donc les tiges, et pris en compte leur biomasse relative afin de pouvoir rendre compte de ces poids inégaux dans la décomposition. Donc ici, on complique un petit peu le calcul de la moyenne des traits pondérés pour une communauté en prenant en compte la distribution de la biomasse entre différents organes pour chaque espèce, donc comme recommandé pour l'analyse de la décomposition du bois par nos collègues hollandais. Ce que montre cette étude, c'est qu'on peut établir un continuum entre les traits d'économie des ressources des plantes, donc les herbacées et les ligneux, l'accumulation de matière organique des sols et les nutriments du sol. Donc comment est-ce que cela fonctionne ? Au fur et à mesure qu'on a une colonisation par les ligneux de plus en plus dense, on va perdre des plantes qui vont être plus riches en nutriments, en phosphore et en azote, au profit de tissus qui sont plus riches en matière, donc en fibres, hein, en matière sèche. Et ceci va se répercuter sur une accumulation de matière organique, puisqu'on va incorporer dans le sol des composés de moins en moins décomposables. Et ça, in fine, ça va impacter la disponibilité en différents nutriments, donc avec une augmentation du carbone au détriment de l'azote et du phosphore. Donc on va avoir ici ce qu'on appelle une cascade fonctionnelle, donc depuis les modifications des plantes et de leurs traits jusqu'au fonctionnement intime des sols, et ceci via ces traits d'économie des ressources. Donc pour résumer ce que je vous ai montré jusqu'ici, ce sont des preuves que le spectre d'économie des ressources des plantes détermine la réponse à la disponibilité en ressources et les effets sur le fonctionnement de production et de recyclage du carbone et des nutriments. Donc on va avoir une capacité de prédire en fait comment, à partir de certains changements environnementaux, on va avoir une modification de ces fonctions. Dans ces analyses, les effets de masse, donc du trait moyen des communautés, sont majoritaires, alors que la diversité fonctionnelle a des effets qui sont moins bien établis, soit positifs par des complémentarités ou négatifs par des aspects de compétition. Alors là, je vous ai présenté les cas où on a le plus de données et le plus de preuves qui nous conduisent à penser que ce schéma de partage entre traits de réponse et traits de fonction, il est valide. Mais on peut se demander si est-ce que ça marche toujours. Alors il y a deux cas où ça va, on ne va pas trouver de relation entre une modification de l'environnement et le fonctionnement d'écosystèmes qui passent par les traits. Le premier, c'est lorsque les espèces dominantes, donc dont l'abondance va changer sous l'effet d'un changement environnemental, portent en fait les mêmes traits que des espèces qui sont moins abondantes et qui vont les remplacer. Pensez par exemple, pour changer un petit peu de facteur, au cas où le pâturage élimine des espèces dominantes et va favoriser d'autres espèces qui sont peut-être moins appétantes ou qui, pour des raisons de compétition, par exemple leur taille, étaient moins abondantes dans l'écosystème. Eh bien, si ces espèces subordonnées, mais avec des traits d'effet sur le fonctionnement de l'écosystème, donc par exemple des traits foliaires similaires, donc remplacent les espèces dominantes, eh bien en fait la fonction va rester constante, donc on aura une stabilité du fonctionnement suite à cette substitution. Mais là, on reste sur un remodèlement de la composition qui passe par des traits similaires entre la réponse et les effets. Alors que dans d'autres cas, comme par exemple les réponses aux perturbations, les traits qui déterminent la réponse à une perturbation, par exemple ici les incendies contrastant à gauche des espèces qui se régénèrent par graines, et à droite des espèces qui se régénèrent par rejet de souches, ces traits n'ont en fait rien à voir avec le fonctionnement biogéochimique de l'écosystème, le recyclage du carbone et de l'azote. Et donc on va avoir une déconnexion entre traits de réponse et traits d'effet, ce qui fait que on ne va pas être capable de prédire les effets de cette perturbation ici par les incendies sur le fonctionnement de l'écosystème à partir de la connaissance des traits de réponse eux-mêmes. Il va falloir connaître en fait la distribution des traits d'effet au sein de chacun de ces groupes. J'ai commencé à ébaucher comment les traits fonctionnels permettent de lier les effets du changement global à un certain nombre de fonctions de l'écosystème. Donc c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité quand on commence à l'étendre à plus de fonctions. Donc ici, je vais démontrer comment on peut continuer notre chaîne prédictive depuis les réponses des traits à des modifications de l'environnement sur à des fonctions de l'écosystème. Donc je l'ai largement démontré déjà, on a des effets, donc des modifications de l'environnement, donc illustrées ici donc sur un paysage alpin. Modification de la température par l'altitude, modification de la fertilité du sol en azote et en phosphore, qui influence la production de biomasse via la hauteur des plantes et leur concentration en azote foliaire, qui sont à la fois des traits de réponse et des traits d'effet. Donc on peut, comme je l'ai bien montré ici, expliquer les variations de production via les variations de ces traits. Ça ne s'arrête pas là. En fait, quand on mesure plus de fonctions, par exemple l'accumulation de litière, le stockage du carbone dans le sol, ainsi que les poules d'azote, eh bien, ces relations continuent à se propager à l'intérieur du système. Et donc, on va avoir une capacité à prédire plusieurs fonctions simultanées selon les variations de l'environnement, selon ces deux traits, donc la hauteur des plantes et la concentration en azote. Sachant qu'il y a donc un compromis, donc selon le spectre d'économie des ressources, entre fonctions de conservation, donc via la durée de vie des feuilles, l'efficience d'utilisation des nutriments et de l'eau, mais aussi les défenses biochimiques qui sont plus abondantes chez les espèces à stratégie conservative, et d'autre part les espèces avec une stratégie plus exploitatrice, capable d'acquisition rapide des nutriments par leur surface spécifique des feuilles élevées, des teneurs en azote élevées de leur tissu et un recyclage rapide de carbone et de l'azote, favorisant une croissance rapide. On va en fait avoir une propagation de ces compromis en fait à l'échelle de l'écosystème dans l'ensemble, ou dans les écosystèmes, donc en particulier où les ressources sont limitées, notamment quand l'intensité de la gestion est moindre, on va avoir des cycles de biogéochimiques dont la vitesse va être restreinte par ces caractéristiques, ces traits fonctionnels des plantes qui sont présentes, ce qui va conduire à bien sûr moins de production, une accumulation de litière et calcitrante, une faible qualité nutritionnelle pour les herbivores domestiques et sauvages, et de la part de ces plantes, une capacité de résister à l'herbivorie, donc de pouvoir maintenir leur tissu. À l'inverse, donc, quand la gestion est plus intensive et les ressources plus disponibles, les stratégies d'acquisition qui sont dominantes vont favoriser des cycles biogéochimiques qui sont rapides, donc avec une production élevée, une qualité nutritionnelle élevée et des plantes qui seront tolérantes à l'herbivorie. Donc, ce qu'illustre cette petite démonstration, c'est comment on peut, à partir d'une compréhension des spectres d'économie de plantes individuelles, ensuite constituer à l'échelle des communautés via en particulier les traits moyens découverts, on peut commencer à identifier des spectres de fonction de l'écosystème dans son ensemble. Ce type de compréhension, on peut l'étendre non plus à un gradient simple ici, mais à des gradients multiples, avec un enjeu de prédiction des réponses aux changements environnementaux. Donc ici, j'ai figuré deux dimensions. Donc verticale, celle que nous avons déjà vue sur l'intensité de la gestion, et horizontale, le changement, les variations et le changement climatique. Donc de systèmes plutôt chauds et humides et à gauche, vers des systèmes de plus en plus chauds et plus en plus secs à droite. Donc si on s'intéresse à différentes fonctions que j'ai déjà mentionnées, donc production, qualité du fourrage, donc nutrition des herbivores en général, stockage du carbone et de l'azote, et aussi d'autres fonctions comme la pollinisation par la diversité des espèces fleuries et plus généralement la biodiversité végétale des couverts. On va observer et pouvoir prédire que dans des gestions qui sont relativement de relativement faible intensité, sous des climats tempérés qui sont les nôtres, eh bien on va pouvoir avoir des niveaux élevés pour ces différentes fonctions, donc en haut à gauche. Ce que l'on prédit à partir de la compréhension des modifications des traits fonctionnels en fonction du, selon le climat et de leurs effets sur les différentes fonctions, c'est que lorsqu'on va avoir un climat de plus en plus chaud et de plus en plus sec, le système va basculer en haut à droite vers moins de fonctions de production, mais par contre des capacités de rétention du carbone et de l'azote qui seront plus élevées. Alors que si l'on va sur une trajectoire d'intensification, dont l'objectif est d'ailleurs l'augmentation de la production, par exemple dans des prairies de fourrage de qualité, ça va se faire au détriment non seulement de la biodiversité, mais aussi de ses fonctions de stockage. Ce type d'approche cherchant à étendre la quantification des effets de changements environnementaux sur les fonctions de l'écosystème selon les traits des espèces, elles ont été étendues, par exemple, à des échelles plus vastes, à partir de données sur des sites forestiers à travers l'Europe, permettant ici aussi de prédire, par exemple, de projeter, de cartographier par des modélisations spatiales les zones où la production on a des syndromes de production plus élevés, donc les zones en verte sur la première carte en haut à gauche, des zones où au contraire on va avoir au contraire ou en complément des forêts où on va avoir la plus grande capacité à séquestrer du carbone, à comparer avec les zones qui seront le plus favorables avec la biodiversité. À la biodiversité. Donc, ce que j'ai résumé brièvement aussi, ici, c'est un champ de recherche qui est très actif depuis une vingtaine d'années. Et il est important et sain de prendre un petit peu de recul sur finalement ce qu'on a pu trouver. Alors, il y a une publication par l'équipe de l'expérimentation de IENA. Donc l'expérimentation sur biodiversité et fonctionnement des écosystèmes qui a en fait remis en cause la capacité à prédire le fonctionnement des écosystèmes via les traits des espèces végétales qui les composent, puisque leur réanalyse de tout leur corpus de données, cette expérimentation qu'on voit ici et d'autres expérimentations qu'ils ont mis en place, a montré qu'en fait une faible proportion de la variation des fonctions écosystémiques était expliquée par les traits fonctionnels, donc seulement 5 à 10%, ce qui contraste avec les modèles que je vous ai présentés précédemment, où on les naît fréquemment, par exemple, autour de 60-70% de pouvoir explicatif. Donc cette analyse, elle a ensuite été... donc ça a un petit peu mis quand même le feu aux poudres, puisque ça jetait le doute sur ce qu'on pensait être quelque chose d'assez prometteur. Cette réanalyse a toutefois été critiquée, puisque en s'intéressant seulement à leurs expérimentations à IENA, en fait, il y avait un faible nombre de mesures sur les fonctions dont j'ai beaucoup parlé déjà aujourd'hui, donc la production de biomasse et la décomposition des litières, et plus de mesures ces interactions trophiques, en particulier en concernant les sols, et aussi une approche qui cherchait juste à regarder le pourcentage de variance expliquée au lieu de s'intéresser aux mécanismes. De façon générale, ce qu'on peut dire quand on se penche sur la littérature qui a été publiée, c'est que les communautés assemblées en particulier, en fait, ne donnent pas vraiment d'idée des traits de réponse, puisqu'elles sont en conditions entièrement contrôlées et que les espèces n'ont pas eu le temps les communautés n'ont pas eu le temps de se recomposer ou ont été empêchées par désherbage de se recomposer selon les effets des facteurs abiotiques, en particulier le sol, et concernent aussi en fait de faibles gradients, de faibles amplitudes de gradients de facteurs environnementaux. Plus important du point de vue de la validité des données dont celle de Iéna mais d'autres dans la littérature semblent récuser la validité du modèle, c'est le choix et la manière de mesurer les traits fonctionnels qui ont été utilisés, où souvent, pour des raisons de disponibilité de données, de ressources, de temps, disponibilité notamment dans les bases de données, on va parfois aller chercher des traits fonctionnels qui ne sont pas forcément ceux qui sont pertinents pour une fonction donnée. On va ignorer la variabilité intraspécifique et puis on va s'intéresser aux traits un par un avec des approches de recherche d'explication statistique sans s'intéresser au fonctionnement intégré de la plante. Or, comme je le soulignais, on connaît aujourd'hui beaucoup de traits qui impactent le fonctionnement des écosystèmes, donc ces traits d'effet. Et en tant que communauté de recherche, nous devons nous pencher sur nos choix de traits. Vous m'avez entendu beaucoup parler de spectre d'économie. Et on peut se demander si c'est un peu un couteau suisse, hein, qui a été bien pratique, puisqu'on le comprend bien. On sait bien mesurer ses traits, on sait les mécanismes qu'il y a derrière. Ou un arbre qui cache cette forêt de très nombreux traits qui impactent sur le fonctionnement de l'écosystème. Également la nécessité de ne pas prendre les traits en isolation les uns des autres, mais plutôt d'intégrer au niveau du phénotype. Par ailleurs, donc l'étude critique de Fons van der Plas montrait un faible pouvoir explicatif potentiellement lié au fait que beaucoup des fonctions qui étaient mesurées étaient en fait pas juste de la production primaire ou de la décomposition litière, mais aussi les interactions avec d'autres organismes. Ceci nous amène donc à la prochaine frontière qui est d'essayer de comprendre le rôle des traits fonctionnels pour comprendre et prédire les fonctions au-delà des plantes, puisque bien entendu, dans un écosystème, les plantes interagissent avec de nombreux groupes trophiques aériens et souterrains dans leur fonctionnement propre et aussi dans le fonctionnement de l'écosystème. Alors, la première pièce du puzzle dont on parle par ici, c'est quelque chose qu'en fait avait déjà remarqué Darwin, qui s'était aperçu que les becs des oiseaux étaient en fait adaptés à leur régime alimentaire, donc avec des espèces qui ont plutôt des becs plus fins pour les insectivores versus des espèces qui ont des becs plus gros pour les granivores. Et c'est cette notion d'alignement des traits entre niveaux trophiques qui fonde la suite du raisonnement permettant de lier les traits fonctionnels entre niveaux trophiques, donc en particulier entre les plantes et entre les autres organismes dans les écosystèmes. Donc je l'illustre ici pour un autre cas, puisqu'on va pouvoir rester un petit peu sur les oiseaux. En fait, on a à l'échelle de faune très diversifiée, même à l'échelle mondiale ou à des échelles continentales ou nationales, un alignement entre la masse des graines et la masse des oiseaux qui les consomment via en fait le temps. On a un mécanisme qui est le temps de rétention donc de ces graines dans le système digestif des oiseaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un alignement des traits entre niveaux trophiques. Donc ça, c'est ce qui a fondé en fait cette prochaine étape de développement du schéma réponse-effet, prenant en compte non seulement donc les traits des plantes et leurs effets sur le fonctionnement direct sur le fonctionnement des écosystèmes, mais leurs effets sur le fonctionnement de l'écosystème via leurs interactions avec les autres organismes. Donc je l'illustre ici pour les pollinisateurs, ou lorsque le long d'un gradient environnemental, on va avoir un changement vers des espèces. Donc ici, par exemple, lorsqu'on va avoir un appauvrissement en azote d'un sol, on va favoriser les légumineuses. Ces espèces ont des traits de corolle particuliers qui, donc par leur dimension, vont favoriser certains types de pollinisateurs. Donc un alignement entre les traits des pollinisateurs et la morphologie des corolles des plantes qui vont déterminer les fonctions de pollinisation. Donc ça, c'est le principe simple. On part des traits de la plante. On s'intéresse à comment la réponse de ces plantes va importer pour des traits qui sont ceux qui déterminent la capacité du pollinisateur à accéder aux ressources de pollen et de nectar, et ça va nous permettre de prédire la fonction de pollinisation. Donc, est-ce que ce type de schéma va nous permettre d'expliquer, par exemple, comment ce qu'on observe déjà en termes de changement climatique affecte les pollinisateurs, en termes notamment de décalage phénologique entre plantes et pollinisateurs, ou du fait que ce sont des espèces végétales avec des fleurs moins attractives qui seraient favorisées sous l'effet du changement climatique. Donc ceci démontré par une synthèse à l'échelle globale. Donc si je reprends le formalisme du modèle réponse-effet, pour l'étendre à des communautés, non plus juste les plantes à gauche, mais des communautés multitrophiques, on va chercher donc à décomposer les effets de réponse et d'effet, non plus au niveau d'un seul niveau trophique, mais entre eux. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est, comme précédemment et largement démontré pour les plantes, les relations entre traits et fonctions au sein de chaque niveau trophique, mais aussi donc, la flèche du milieu, les interactions biotiques entre niveaux trophiques. Et donc l'hypothèse, c'est que l'alignement des traits, il n'a plus lieu seulement au sein d'un niveau trophique, mais entre ces niveaux trophiques, donc les traits du niveau 1, donc par exemple les plantes affectent le niveau 2, par exemple les pollinisateurs, et la réponse du niveau 2 peut être reliée à ses propres traits. Donc je vais illustrer ça immédiatement pour un certain nombre de fonctions. Alors, on connaît de nombreux traits qui sont impliqués dans les relations plantes-arthropodes qui permettent, ce sont des travaux qui sont en cours aujourd'hui, que ce soit pour les pollinisateurs, mais par exemple pour les auxiliaires, les ennemis et les auxiliaires des cultures, on peut faire des hypothèses sur quels sont les traits d'effet des plantes et les traits de réponse des arthropodes. Donc, concernant des traits liés aux ressources de part et d'autre, mais aussi des traits qui concernent, par exemple, les effets des plantes en tant que structure pour les invertébrés ou modificateurs du microclimat, et des traits de comportement des arthropodes. Donc ici, je vais prendre une illustration simple pour le cas des herbivores généralistes, et en particulier donc les orthoptères. Donc, par une expérimentation en conditions contrôlées présentant différents types de feuilles à différentes espèces de criquets, Sébastien Ibanez a pu montrer qu'en fait, la résistance mécanique des feuilles de différentes espèces était ce qui influençait le choix alimentaire des criquets. Et ça, il a pu le mettre en relation à une quantification de la force incisive de leur mandibule. Donc, on a vraiment un mécanisme liant ce que consomment les criquets en termes de feuilles plus ou moins résistantes à leur morphologie et leur force biomécanique. Ce qu'il a ensuite démontré en allant observer quels criquets étaient présents dans des communautés végétales entières avec différentes résistances des feuilles, c'est que l'on avait un alignement entre les espèces de criquets présentes et la résistance des feuilles qui étaient présentes dans ces communautés. Par la suite, nous avons aussi pu montrer qu'on avait, donc via cet ajustement, cet alignement entre la morphologie des criquets, donc la taille de leur mandibule qui est liée à leur masse corporelle, alignée avec la teneur en matière sèche des feuilles des communautés, qui est un indicateur de leur résistance mécanique, on pouvait mettre en relation l'intensité de la gestion des prairies, donc avec une gestion intensive qui favorise des plantes à matière sèche plus faible, avec non seulement les communautés de criquets, mais leurs impacts sur la production de biomasse, ou donc des communautés de criquets avec des mandibules plus fortes pouvant consommer de la biomasse plus résistante, conduisent à une diminution de la production de biomasse. Je vais maintenant passer à la dernière frontière, brièvement, qui concerne les relations très complexes qu'on a entre les plantes et les sols via les organismes du sol. Donc le sol, lui aussi, est donc le siège de très nombreuses interactions entre les plantes et différents types d'organismes, macro, méso et microfaune, et en interface donc avec les racines des plantes, mais également en interface avec la matière organique issue des plantes et à différents niveaux de décomposition dans le sol. Donc ici aussi, on commence à découvrir les mécanismes d'ajustement entre la macro et la mésofaune détritivore et les traits des espèces qui constituent les litières en termes d'alignement biomécanique, comme pour les criquets, de digestion et aussi de métabolisation. Donc il y a toute une série de mécanismes concernant la structure physique et chimique des feuilles en ajustement avec les traits des différents détritivores. De la même façon, à toutes les étapes de la décomposition de la matière organique, les spécialistes de la faune du sol sont aujourd'hui en capacité de proposer en fait différents traits donc liés à la morphologie, la taille, le métabolisme qui est lié à la taille, l'accès aux ressources du fait de la mobilité, à leur comportement de consommation, à leur capacité à digérer et in fine à ce qui va rester en termes de matière organique dans le sol. Donc ça, ce sont des fonds de recherche aujourd'hui bien entendu, vous vous rendrez compte que ce sont des traits qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer que d'aller mesurer des feuilles de plantes. On est en train de construire sur corpus permettant de mettre en évidence ces liens entre traits des plantes, traits des organismes qui les consomment et les recyclent, et fonctionnement de l'écosystème, en particulier recyclage de la matière organique. Donc à partir de l'accumulation de ces connaissances, nous entrevoyons aujourd'hui un continuum de fonctionnement de l'écosystème selon les ressources disponibles, que ce soit les ressources minérales ou par exemple l'eau avec des gradients d'assèchement des sols, ou allant de plantes plus conservatrices dans des conditions de restriction en nutriments et en eau vers des plantes plus exploitatrices lorsque ces ressources sont plus disponibles. On va avoir un impact sur les communautés microbiennes qui sont présentes, notamment donc une tension entre une dominance bactérienne lorsque les ressources sont très disponibles et une dominance fongique à l'inverse, associée à des processus plus rapides en présence de ressources plus disponibles et donc de plantes plus exploitatrices, et l'inverse, processus microbien bien lent en conditions de ressources limitantes, avec une implication sur qui est en contrôle des différents processus écosystémiques. Donc un contrôle par les traits des plantes pour ce qui concerne la production de biomasse, qui est bien sûr plus importante quand les ressources sont peu limitantes, vers des fonctions de rétention où ce sont les traits microbiens qui vont être plus aux manettes du contrôle de l'écosystème. Alors, comme je l'ai mentionné, ce sont des travaux qui sont vraiment encore en cours. Il faut se rappeler que quand on parle de sol, le contrôle primaire est par les contraintes, agit par les contraintes environnementales. Bien entendu, plus on va être à des échelles larges, plus les gradients environnementaux vont être amples, ce qui va augmenter ce contrôle. Mais néanmoins, donc quand on se place dans les sols, le contrôle environnemental est toujours ce qui va prédominer. Ce que je vous ai présenté aussi, en partant toujours des plantes et de leurs traits très fonctionnels, c'est ce qu'on appelle un modèle ascendant. Donc prenant le parti que les plantes vont fournir des tissus de différentes qualités, différentes résistances aux organismes des sols. Alors que ce que l'on peut penser, en particulier quand on est spécialiste des organismes des sols, c'est que c'est l'inverse. En fait, ce sont les organismes des sols qui contrôlent, qui vont ensuite impacter les plantes et que l'ensemble va impacter le fonctionnement de l'écosystème. Donc ce contrôle descendant. Et certaines études montrent en effet qu'on aurait, par exemple, plutôt des effets du climat sur les propriétés du sol via la végétation, mais largement par les effets des communautés microbiennes. Quand on s'intéresse à tous ces écosystèmes complexes, vous voyez que les influences ne sont pas linéaires et directes. On a des effets indirects, on a des rétroactions. Et c'est ce qui explique que notre capacité à expliquer le fonctionnement des écosystèmes par les propriétés des plantes, il va être limité au fur et à mesure qu'on va être dans des réseaux trophiques plus complexes. Donc aujourd'hui, j'ai essayé d'esquisser comment nous pouvons comprendre que les traits fonctionnels des plantes permettent de faire le lien entre les changements environnementaux, donc de gestion de climat et les cycles biogéochimiques. Ils participent aussi aux liens trophiques au sein des écosystèmes. Et l'approche qui a été maintenant bien testée pour les plantes et pour certaines fonctions en particulier est prometteuse pour des fonctions plus complexes, notamment dans les sols, mais avec aussi des limites. Et c'est aujourd'hui un thème de recherche qui est très fertile, mais dont il faut bien garder en tête qui ne progressera qu'avec une attention aux mécanismes et aux mesures des traits fonctionnels pertinents. Voilà, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.